I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
La toile.
Avant de commencer, il faut toujours mettre les téléphones en mode silence.
C'est un peu fort le son, Richard, dans nos oreilles.
Je crache mes glaires.
Là, juste pour éviter d'être outside of the angle.
Je suis un truc dans le nez, c'est agréable. Tu peux faire des petites stories de nous, comme si on fait genre on parle.
On met pas les mains sur la table.
Mais t'es sûr que vous voulez pas un miroir, non? Ah, 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 ah.
Penelope, s'il te plaît, focus.
On est prêt.
3, 2, 1, action.
Dans On tisse la toile, le podcast qui révèle la face cachée des invités, que vous écoutez sur une plateforme d'écoute ou que vous regardez sur YouTube, j'ai l'immensissime plaisir de recevoir Mathieu Stéphanie. Mathieu Stéphanie. Ai-je vraiment besoin de le présenter? Oui? Je le présente, les filles, ou pas? Voilà, je le présente. Alors Mathieu Stéphanie, c'est le pape du podcast business. Autant que Clémentine Gallet, qu'on a reçue dans Tisse la Toile, est la papesse du podcast maternité. Toutes les semaines, il reçoit un entrepreneur qui raconte son business, son ascension, comment est-ce qu'il a levé des fonds, comment il est devenu une licorne, pourquoi il cartonne, il rentre dans le détail de son business et génère près de 800 000 ish ou pas, il nous le dira plus tard, écoute par mois. Aujourd'hui, il en a près de 400 épisodes. Quand même, c'est pas rien. D'ailleurs, vous dites Mathieu Stéphanie à un entrepreneur. J'ai presque envie de dire à 80% des hommes, Mathieu nous expliquera, nous dira ou pas si c'est plus des hommes ou des femmes qui l'écoutent, mais les hommes entrepreneurs répondent « J'écoute tous ces épisodes ». Et juste après, qu'est-ce que me disent les gens? Est-ce qu'il est vraiment sympa, Mathieu Stéphanie, dans la vie? Ou est-ce qu'il est imblairable? Parce que dans les interviews, il est plutôt sympa. Donc j'aimerais savoir s'il est sympa ou pas dans la vie. Ce à quoi je réponds. On ne sait pas ce que je réponds, on verra plus tard. Mathieu Stéphanie, bonjour.
Je suis imblairable. Je sais, toi t'es ingérable, moi je suis imblairable. chacun son problème, tu vois.
Non, t'es pas imblairable, si.
Hein, tu sais que j'ai eu je mets les deux pieds dedans. Tu connais Chrysoline de Gâtine?
Bien sûr, ouais. Balzac.
Balzac. Et Balzac.
La marque de vêtements Balzac.
Chrysoline, je t'embrasse, je te kiffe. Mais elle a croisé un de mes meilleurs potes la semaine dernière. Et il se trouve que je suis un peu miro. Je reconnais pas bien les gens. C'est un drame parce qu'en fait, les gens se demandent vraiment si je suis vraiment sympa ou pas, c'est probablement une des raisons pour lesquelles je vois des gens, je sais pas, et puis je vois un bien avec mes yeux, mais je reconnais pas les gens.
T'es pas physionomiste?
Non, ouais. Okay. Je l'ai croisé une ou deux fois, et puis elle dit à ce pote, Nico, écoute, je sais pas s'il est vraiment sympa. Enfin, quand on a enregistré, déjà, je l'avais un peu chambré sur le fait qu'elle arrivait sur sa licorne, parce qu'elle arrivait toute pimpante, etc. Et je trouvais ça sympa, mais ça, c'était plutôt une chambre sympathique. Et puis, elle lui dit, mais est-ce que c'est pas un gros con, en fait? Quoi. Il dit, non, je crois pas, non. Enfin, moi, c'est un de mes meilleurs potes, c'est pas un gros con, etc. Donc voilà, je suis sympa que devant les micros, en vrai. Je dois l'avouer. Voilà, je me demandais quelle face cachée j'allais pouvoir t'avouer. Ben, d'office,
non, mais en vrai,
tout de suite.
En vrai, Mathieu Stéphanie, t'es un mec sympa.
J'essaye. Moi, je crois vachement au karma, tu vois. Je pense que, tu vois, je fais des passes dés. Si tu me demandes, là, par exemple, je me suis rendu compte que tu m'avais demandé, quand je t'ai texté, là, tout de suite, pour te dire que j'étais en bas, tu m'avais demandé le numéro de quelqu'un et je t'ai pas répondu.
En fait, j'ai l'habitude, tu me réponds jamais.
C'est vrai?
Ouais. C'est pas voilà. Que le premier.
Je reconnais pas les gens et je réponds jamais. Non, mais bon, voilà, je fais des choses comme ça, mais en revanche, il n'y a jamais de mauvaises intentions. J'ai jamais de mauvaises intentions.
Donc, Mathieu Stéphanie est plutôt quelqu'un de sympa, voire même de gentil.
J'essaye.
Ouais.
Ouais.
C'est vrai.
J'essaye. Je fais mon max. En fait, quand je dis je crois au karma, c'est que je pense que, en fait, tu vois, tous ces gens qui se font des crasses, en fait, la vie est trop courte pour s'emmerder. Hein, je sais pas. Tu vois ce qu'on faisait entre podcasteurs, là, quand on se croisait, ce que tu
Alors
fais,
non,
toi
excuse-moi, je te coupe, parce que entre podcasteurs, au Club Med des Alpes où je ne suis pas invité, alors qu'on invite tous les podcasteurs de la place de Paris, non, là, je ne suis pas d'accord.
Alors,
allons-y, puisque.
Nous, on propose un certain nombre de podcasteurs dans lesquels tu étais longlisté.
Bien sûr.
Mais la shortlist ne dépendait
d'accord,
pas.
D'accord. Donc, on a préféré une. Alors, bien sûr, on a préféré une Clémentine Gallet, évidemment. On a préféré une Hortense de Décodeur, bien sûr. On a préféré une Caro Arditi, mondialement connue dans le monde du podcast.
Non, Caro Arditi, elle n'était pas là pour podcaster, elle était là pour animer l'ensemble. Donc, elle a fait l'icebreaker, exactement.
D'accord.
Choisie par le Club Med pour être notre chaperon.
Barthélémy Fent, bien
voilà,
sûr.
Un podcast de sport, voilà.
Sûr. Et Pénélope Boeuf, un podcast lifestyle.
C'était hors catégorie, en fait.
Hors catégorie.
Ça devait être pour ça.
Ah, ça devait être pour ça, ouais.
Mais je dois pouvoir te garantir à 100%. Je vais même l'enlever le doigt. Je te garantis à 100% que t'as été longlistée et proposée.
Ah oui. Écoute, thank God, j'ai envie de dire.
L'année prochaine, on en fera d'autres saisons.
Je préférais être au Club Med des Maldives parce que moi, le ski en maillot de bain, parce que donc du coup, l'idée c'était que toutes les femmes fassent du maillot de bain en ski.
C'est une initiative de leur propre chef. Je dois l'avouer, c'est pas moi qui ai pensé à me dire tiens, on va mettre les meufs en maillot de bain sur la neige. Ce serait en 2024, je pense, assez malvenu, tu vois, de la part d'un homme. Mais bon,
elles ont kiffé apparemment.
Elles ont kiffé, elles y sont allées.
Est-ce qu'elles sont tombées?
Je crois pas, non.
J'étais pas derrière.
Non, moi j'enregistrais à ce moment-là en plus. J'étais pas derrière.
Bon, Mathieu Stéphanie, cette interview, puisque tu ne les as jamais écoutées, tu viens de me le dire en off. Merci beaucoup. Alors quand même, on en est quand même à la 20e, mais c'est pas grave. Commence toujours par une question, qui est la question du tu préfères. Mm-hmm. Mon jeu préféré. Mathieu Stéphanie, est-ce que tu préfères? Et c'est pas rien, je sais pas, ça dépend. Hein. Est-ce que tu préfères faire la couve de JQ en tant que le mec qui parle beaucoup de lui en interview, ou la couve de Valeur Actuelle en tant qu'entrepreneur à succès?
La première, sans hésiter.
Ah bon?
Ah ouais. Valeur Actuelle.
Ouais, enfin, le mec qui parle beaucoup de lui en interview, quoi. Mec.
Tu sais quoi, ça, c'est les gens qui projettent ça sur moi, ça me regarde pas. Si un journaliste estime ça de moi, c'est son problème, c'est pas le mien. Moi, je sais comment je fais mes podcasts.
Donc JQ.
Ouais.
D'accord.
C'est plus cool d'être JQ.
Est-ce qu'un jour on te verra dans JQ, tu penses ou pas?
Je suis pas sûr que JQ soit exactement leur cam, tu vois, ils préfèrent.
Si.
Ah, je sais pas.
C'est comme Marie-Claire qui prend des entrepreneurs en couve, là, tu vois.
Ouais. Vanity Fair, elle. Tu sais que moi j'étais bercé à elle.
Ouais.
Petit, ma mère lisait elle, je lisais elle, je trouvais
Et
ça
tu
trop
lis toujours
cool.
Elle?
Bah non, je lis plus de magazines.
Bon, Mathieu.
Ouais.
Les gens qui écoutent On tisse la toile.
On les embrasse.
On les embrasse, très fort.
Déjà.
Déjà. Mais surtout, ce qu'ils veulent, c'est un peu, ils veulent apprendre et se divertir. Et donc, c'est parfait de t'avoir à mon micro aujourd'hui, parce qu'on va apprendre tout en se divertissant. Parce que tu vas, j'espère bien, nous donner de l'information, nous donner des chiffres, nous donner plein de choses. Et en même temps, on va rigoler. Donc, Mathieu Stéphanie, pour tous ces gens... Justement, est-ce que c'est des hommes ou c'est des femmes qui t'écoutent?
Alors, tu sais que j'ai deux podcasts en plus. J'ai un podcast qui s'appelle La Martingale.
T'en as pas deux, t'en as mille.
Oui, non, on en a d'autres, mais ceux que j'anime, moi j'ai La Martingale et Génération It Yourself.
Oui.
Sur La Martingale, on est principalement sur des hommes, parce que ça concerne les finances perso et que j'ai découvert que les femmes s'en foutaient de l'argent.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Écoute, elles ne s'intéressent pas à la finance. C'est très clair, tu regardes tous les médias financiers, c'est culturel, c'est un drame absolu, mais c'est comme ça, elles ne s'intéressent pas à l'argent. Je pense que généralement, historiquement, c'est les hommes qui gèrent les finances dans un foyer, ce qui est une aberration totale, parce que c'est une manière de s'émanciper de ouf, en fait. Surtout que tu vas voir dans beaucoup de couples, des hommes qui gèrent l'argent, les femmes qui dépensent leur argent, donc tu vas avoir des hommes qui vont faire des investissements pendant que les femmes dépensent pour le foyer, la bouffe pour les enfants, les nounous, l'école, les je sais pas quoi, etc. Puis à la fin, ils divorcent, et qu'est-ce qu'il y a du pognon et qu'est-ce qu'on n'a pas?
Bah oui, c'est le mec.
Et voilà, et donc du coup, tu te retrouves dans des situations vraiment... et ça, c'est ultra, ultra, ultra courant. Et donc, il faut que les femmes s'intéressent à leur argent, et malheureusement, aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Donc nous, typiquement, on met en place une équipe composée que de femmes autour de La Martingale. Laura Pironet, ma productrice, elle invite, je crois qu'on est quasi à parité sur les invités hommes et femmes, je crois qu'on est à parité, en tout cas sur certaines saisons c'est sûr qu'on y est, et malgré ça on doit être à 70% d'hommes et 30% de femmes en auditeur, auditrice, ça on a les données sur Spotify.
Dans un vrai, s'il n'y a pas de total désintérêt non plus de l'heure des femmes, t'as quand même des femmes.
Oui, j'en ai quand même, mais bon 30% c'est quand même vraiment pas grand chose.
Mais d'ailleurs, en parlant de ça, t'as aussi une capsule télé maintenant.
Ah oui, sur les finances perso, tout à fait. On essaie de vulgariser à mort sur TF1, en effet, sur qui s'appelle Épargnons-nous les idées reçues, que m'a proposé.
Très bien, comme
voilà, le 20h, on est à 19h45 le dimanche soir sur TF1. C'était en fin d'année dernière. On devrait refaire, je pense, une saison cette année.
C'est dur, quoi. 1 minute 30, 2 minutes.
Même pas, c'est 55 secondes. Alors là, c'est là où tu apprends que faire 55 secondes, c'est ça long. Peut être beaucoup plus long que de faire 2 heures de contenu.
Et on te voit sur fond noir parler.
Ouais, dans un. Comment t'appelles ça? C'est un tube, vous voyez, ça vous parle, un truc où t'as un rond comme ça au fond derrière, puis t'as l'impression que c'est vraiment immense et tout. C'était vraiment très cool à tourner avec des équipes.
T'as fait combien de capsules en tout?
On a fait 8. Et voilà, et sur Génération du
Tube. Attends, ouais. Et cette capsule-là, combien de téléspectateurs?
Les voix, t'es sur des trucs à forte audience. Tu vois, juste avant le 20h du dimanche soir, c'est la plus grosse fenêtre sur TF1, ça doit être 2-3 millions, tu vois.
Et ça a rapporté des choses?
Ça rapporte de l'argent.
T'as rapporté de l'argent ?
Ouais, un peu. C'est pas de la folie. C'est quelques milliers d'euros par épisode.
D'accord.
En revanche, ça apporte beaucoup d'expérience. C'est une aventure extra, en fait.
Oui, ça doit être génial pour toi. Oui, bien sûr.
T'apprends, tu passes, t'as une vraie. Tu vois, moi, je viens d'un univers de production de contenu où, à l'origine, comme toi, on était tous les deux avec notre Zoom, là, t'as un roadcaster. Voilà, on avait deux micros et puis on faisait tout seul. Puis après, t'as une équipe de prod qui se met en place, puis des caméras, puis des choses. Là, les caméras, faut juste te dire qu'il y avait un réalisateur plus deux assistants caméras. Tu te dis, mais dans quel monde il y a deux assistants caméras? Si, tu vois au résultat que c'est beaucoup mieux, en fait, ce qu'ils font. Mais donc, ils investissent, c'est de la télé, il y a beaucoup plus de moyens. C'est super intéressant de vivre ça de l'intérieur. Donc, ça, c'est ce que ça t'apprend. Après, j'ai été assez surpris du faible transfert de la télé vers le digital.
Bah oui, c'est ça ma question.
T'as pas de raz-marée.
T'as pas ramené plus d'auditeurs sur la Martingale, par exemple.
Pas de ouf. C'est pas
d'ailleurs,
visible.
Comment tu peux le traquer?
Tu fais pas de pic. En tout cas, tu verrais gros pic, etc. Alors après, ce sont des podcasts. Moi, j'ai des podcasts qui sont déjà relativement gros. Donc, pic, il se verrait pas. Tu vois, si j'avais 2 millions, évidemment, mais. Non, c'est pas, tu vois, d'un coup comme ça, le
ras-de-marée. Mais à la fin, dans le générique, c'est écrit quelque chose?
C'est écrit, Mathieu et Stéphanie, podcast La Martingale, etc. C'est marqué, mais t'as pas, même dans les recherches, tu vois, dans les stats, pas de trucs de ouf, en fait. C'est pas, et tu vois qu'en fait, même sur la télé, dans tous les médias, en fait, il faut souvent un petit peu de temps pour installer, sauf si t'as une énorme news, évidemment, tu vois, un truc, mais c'est pas incroyable.
Et t'avais un prompteur?
On avait un prompteur, il y avait toute une équipe, il y avait Clémence, ma productrice que tu connais. T'as des trucs, t'as pas idée. Tu vois, il y a un moment, on refaisait une prise sur, je vais dire une connerie, je sais plus c'était, mais tout à fait. Tu regardais la caméra, mais je faisais 40 fois, mais tout à fait. Non, fais le plus comme ça. Tout à fait. Et le genre, ils choisissent derrière, tu sais pas ce qu'ils vont prendre. C'est assez.
Ils te montrent pas avant de diffuser.
Non, ils m'ont pas montré. Enfin, ils m'ont proposé un ou deux pilotes et tout, mais j'avais pas de validation, pas de final cut. Mais
et c'est toi qui décides des sujets?
On les a co-écrits et co-créés avec TF1 et Amundi, qui était le sponsor. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'ils viennent te chercher. Parce que t'as un côté. Pas du sérail, tu vois. Moi, dans la Martingale, l'idée à l'origine, c'est de dire je suis pas financier, j'y connais rien. Et en fait, tous ces hommes en costume gris, ça me saoule, en fait. Quand ils me parlent, je comprends rien avec leur jargon à la con. Et donc, parlez-moi, explique-moi les trucs vraiment, comme
français,
pour que tout le monde comprenne. Et comprendre combien je peux gagner, qu'est-ce que je risque et qui gagne. Parce qu'aussi, dans la finance, il y a énormément de... C'est une boîte noire, tu sais pas quelles sont les commissions de chacun. Donc ça, moi, c'est ce que je déconstruis à chaque épisode. Donc ils sont venus me chercher parce que j'avais un côté plus cool, plus on fait en t-shirt, un machin, accessible, etc. Et puis, en fait, que ce soit sur le fond comme sur la forme, ils viennent te chercher pour ça, et puis après, on va souvent un peu resserrer et te dire « Ah non, mais ça, on peut pas parler de ça, tu peux pas le dire comme ça, parce qu'en fait, c'est trop... Tu dis hey, « vous êtes venu me chercher pour ça,
en
donc
fait,
c'est marrant. » Mais à la fin, ça a été. Mais il fallait le rappeler, en fait. C'est assez drôle, t'as toujours des tractations, tu vois. Moi, je m'étais acheté une paire de Jordan en me disant « On va mettre des grosses baskets, on va arriver, on va être beaucoup plus... »
Et en fait,
on a remis des petites chaussures, c'était trop visible. Alors là, il y avait des histoires de marques, on pouvait trop les identifier, donc
normal.
Ça plaisait pas à la chaîne. Mais en fait, t'arrives sur chaque point de détail une tractation de ouf, quoi. La moralité, je me retrouve avec une coupe de cheveux à la con, validée par Clémence, que je déteste pour ça.
Petit make-up.
Gros make-up, ouais, non. Alors, ce qui est drôle, c'est que pendant 3 jours, on a tourné 2 jours entiers. Pendant 2 jours. Les 8 sur 2 jours. Donc, ça fait quand même que 2 fois 50 secondes par demi-journée. Et en fait, T'as deux jours où t'es une star. Mmh. Ça, c'est quand même un truc de ouf. Tu sais, t'arrives, on te pomponne, tu veux un café, on te met dans un truc, on t'habille, on te maquille, on machin, on t'attend. Tout est vraiment fait autour de toi. Et ça, dans une belle prod comme ça, je t'avoue que c'est aussi inspirant pour nous, tu vois, quand tu reçois tes invités, de les mettre dans des bonnes dispositions, etc., qu'ils soient, enfin. Et en fait, là, t'as un truc où t'es vraiment un, c'est le centre de l'attention. C'est grisant, c'est cool. Tu te, faut le prendre avec une certaine distance, mais il y a un côté vraiment, voilà, t'avais un peu vécu l'expérience Léo DiCaprio, si tu veux, quoi.
Et est-ce que tu peux comprendre que ces gens-là, artistes, comédiens, machin, finissent par prendre la grosse tête?
Moi, je pense que rien ne doit excuser ça. Je pense que tu dois rester.
Ah, mais ça, on est d'accord. Mais il faut. Mais est-ce que c'est si facile que ça?
En tout cas, il faut qu'il s'y attache. Je ne veux pas le comprendre. Je n'ai pas envie.
On n'a pas envie de le comprendre. Matt, est-ce que tu as fait de la pub au début de Génération Youth Yourself?
Jamais. De payant? Jamais. J'ai fait comme toi, moi. Et d'ailleurs, il semble que je sois encore plutôt bien. Beaucoup de gens m'envoient dans les Apple Store.
Mais tu sais que tu as. Mais c'est pas possible! Tu es sur tous les Apple Store, on ouvre, c'est l'application ouvre sur Mathieu Stéphanie.
Je sais, beaucoup de gens m'envoient des messages et je sais pas comment.
T'as fait un partenariat avec Apple.
J'ai envoyé à ma communauté, je leur ai dit, allez, mettez-moi sur tous les Apple Store.
Non, mais je pense que c'est d'office quand ils allument leur truc le matin, ils ont Mathieu Stéphanie.
Bah écoute, tant mieux.
C'est énorme ça. Et du coup, ça te génère des écoutes dans le vent complètement.
Je sais pas à quel point c'est. Non, des écoutes, je sais pas, des téléchargements.
Bah si, oui. Ouais. Aujourd'hui, c'est pareil.
Non, mais je sais pas si ça télécharge ou si ça affiche juste.
Ah non, ça joue. Ouais. Attends, quand j'allais tricher pour les miens, je voyais qu'il y avait Mathieu Stéphanie. J'étais, mais non, pédalope.
Non, mais moi, donc j'ai jamais payé pour quoi que ce soit là-dessus.
D'accord.
Je réfléchis, est-ce que j'ai payé
des ads, quoi.
Des ads, en tout cas, j'ai peut-être testé des choses, mais à coût de 100 ou 200 euros qui n'ont jamais marché. C'est-à-dire que ça, j'ai jamais hacké le système. J'ai eu, moi, un hack à moi. Qui était que j'étais seul au tout début, donc en fait finalement il y avait pas d'autres podcasts, je veux dire la première année il y avait, donc c'était un avantage et un inconvénient, c'est-à-dire que personne n'écoutait de podcast, ou le peu qu'on écoutait, ils écoutaient des podcasts américains, donc finalement ils sont venus, il y a eu un petit transfert, mais
j'avais une autoroute.
Ouais, j'avais une autoroute. Après non, je crois que le secret il se fait sur le travail, quoi. Tu
et la régularité, voilà. Et la
relentless. Comme un chien, t'arrêtes pas, tu bosses comme Pénélope Puff, comme moi, et puis voilà, comme beaucoup, tu vois, et puis t'avances, puis tu progresses, et puis tu te remets en question. Je passe ma vie à me remettre en question, quoi. Je passe ma vie à me dire, ça c'était pas bien, celui-là il est trop long, oh putain.
Oui, mais en plus tu coupes pas.
Non, non.
Pff, alors ça, qu'est-ce qu'on en pense?
Bah écoute, beaucoup de. En fait, ce qui est drôle, c'est que tous les gens qui écoutent Génération Youth Yourself, ils écoutent en grande partie pour ça. Parce que je coupe pas, et parce que c'est le deal, en fait. Et donc oui, dans mes réflexions, je me dis, est-ce que je ferais pas un deuxième format coupé en une heure pour voir si... Mais en fait, il se trouve que moi, j'écoute que des podcasts qui sont pas montés. J'écoute quasiment que des formats longs, en tout cas. Okay. Alors certains sont montés, mais à ma connaissance, Joe Rogan ne monte pas. Tim Ferriss monte très très peu. Dire VC, oui, il monte un petit peu, mais pas beaucoup. Donc je me dis, attends, pourquoi, tu vois? Pourquoi?
Alors Joe Rogan, tu l'écoutes où maintenant?
Je l'écoute. Elle est revenue. Alors, il est toujours sur Spotify, mais il n'est plus en deal avec eux. Il est plus exclusif sur Spotify. Mais en vrai, j'écoute pas tant Joe Rogan. Je le regarde beaucoup parce que c'est vraiment
un exemple.
Enfin, c'est le plus gros podcasteur, donc faut regarder un peu ce qu'il fait. Tu vois, je vois qu'en janvier il sort 18 épisodes, en février il en sort 14. Il y a aucune logique à ça, mais il sort quand il veut, il fait ce qu'il veut. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Cela dit, bon, il a une ligne qui est très libertarienne, potentiellement très à droite, ou pas toujours, mais tu vois, enfin, il peut te faire un. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il va te faire un truc avec Snoop Dogg un jour, le lendemain, il va te balancer des suprémacistes blancs. Ça, c'est, tu vois, je l'avais vu il y a 2-3 ans. Cela dit, il a quand même des très beaux invités, du Elon Musk chez lui, c'est toujours extraordinaire. Voilà, mais j'écoute là en ce moment, je suis dans une période Lex Fridman que j'adore. Absolument, mais pareil, je crois que chez Lex Fridman, j'ai écouté un épisode de 6 heures récemment. Tu vois, je suis décomplexé.
Ça, j'ai envie de dire, c'est complètement sexiste ce que je veux dire, mais pour le coup, c'est vraiment un truc de mec.
Non, mais. Moi, je me permettrais pas de dire ça.
Bah non, mais t'as raison, parce que t'aurais pas le droit. Alors que moi, j'ai une femme, j'ai un peu le droit de dire ce genre de truc. Est-ce que tu connais des podcasts longs de femmes?
Non, mais surtout, tu sais ce qu'on dirait, nous. Oh là, les pipelettes, mais qu'est-ce qu'elles se font plaisir, tu vois.
Alors que voilà. Non, mais enfin, moi, je dis, ah là, qu'est-ce qu'ils s'écoutent, tu vois, c'est pareil.
Ouais. Non, mais en fait, ils s'écoutent pas. Enfin. Pas tant que ça. L'invité, là, c'est sur un mec qui était un des plus gros arnaqueurs américains. Et comme, en fait, c'est un gros arnaqueur, il a beaucoup de bagou. Ça parle. Mais c'est, tu dis qu'il y a la moitié des choses qu'il raconte qui sont des conneries, mais en revanche, il y en a beaucoup là-dedans qui sont, t'as envie de, tu vois, t'as des vraies techniques d'arnaque et tout qui sont vraiment, vraiment assez cool.
Ok, est-ce que t'es déjà allé donc dans les appels sort pour booster tes écoutes?
Oui. Ça, je l'ai fait moi-même.
Tu peux dire face caméra, s'il te plaît.
Je suis allé dans des Apple Store pour abonner mon podcast moi-même sur tous les écrans d'iPhone, d'iPad, d'iPad Air, d'iPod. Peu importe, j'avais aucune obédience sur le device en question. J'abonnais tout.
C'est quoi ta politique pour tes invités? Parce que tout le monde me demande, je leur dis, mais ils ne me croient pas. Comment est-ce que tu choisis tes invités?
Je vais les chercher moi-même. Enfin, je les invite. Je prends pas des gens qu'on me propose, pas sauf accident. Je cherche des personnes qui sont lancées uniquement.
Donc que des entrepreneurs.
Artistes, sportifs, politiques. Pour moi, il y a dans Do It Yourself, de génération Do It Yourself, il y a un sous-jacent très important qui est, quand je dis se sont lancés, c'est que ce sont des personnes qui à un moment ont cru en elles. Et c'est très important, et c'est quelque chose qui fait la différence entre un entrepreneur et un chef d'entreprise, par exemple. Le chef d'entreprise, souvent, il est monté, il a gravi des échelons, il a été recruté, mais tu n'as pas le risque, ce saut dans l'inconnu assez vertigineux. Et cette foi en toi, mine de rien, quand bien même tu as un syndrome de l'imposteur, comme j'ai pu en avoir, comme tu l'as peut-être eu, comme on l'a peut-être encore, à un moment tu te dis, ok, tu sais quoi, je vais me lancer là-dedans, j'y vais, voilà. Je vais devenir champion du monde, je vais devenir champion olympique, je vais me faire élire maire de ce village, je vais me faire élire député, je vais me faire élire président. La vache, tu vois, à chaque fois, et en fait les sportifs, les artistes, les entrepreneurs, quand tu te dis, je vais vivre de ma photographie, de ma peinture, de ma chanson... de ma clarinette, enfin je veux dire, tu vois, il y a un moment où c'est quand même assez, enfin faut croire en toi, tu vois. Et ça m'intéresse. C'est transformatif. Comment tu fais ce saut? Comment beaucoup de personnes, peut-être une majorité, probablement une majorité écrasante, ont des rêves enfouis, se disent j'aimerais tellement faire ci, j'aimerais tellement faire ça, et moi j'aime être l'étincelle qui fait que à un moment, tu vas basculer de l'autre côté en te disant c'est possible, fais-le, teste quoi. Au pire, tu perdras quoi? Tu perdras rien, enfin, tu perdras un peu d'argent.
Est-ce que tu es en train de dire que les CEO de boîtes qui n'ont pas fondé leur boîte ne sont pas entrepreneurs?
Oui, mais c'est très technique. Enfin, oui, non, ils ne sont pas entrepreneurs.
Donc un CEO n'entreprend pas?
Il n'est pas entrepreneur, il est directeur général. Il, un entrepreneur,
il
c'est
entreprend
quelqu'un...
tous les jours.
Il entreprend, alors on peut débattre sur la sémantique de l'entrepreneuriat. En tout cas, à mon sens, il n'a jamais pris de risque 100% sur ses propres deniers. Il y a des limites à ça. Hein. Quelqu'un qui reprend une boîte, qui rachète une boîte avec son argent, etc. Là, on est beaucoup plus proche de l'entrepreneuriat. Quelqu'un qui est, j'ai des limites sur les CEO du CAC 40, on prévoit des choses, il est probable qu'on avance là-dessus, mais... Tu vois, quelqu'un qui est recruté pour être CEO d'une entreprise, son risque, il est quoi? Il est de se faire virer et d'avoir le chômage. Enfin, tu vois, c'est pas la même chose que quand tu quittes quelque chose, que tu te mets all-in, que tu mets un peu, beaucoup, la totalité de ton argent, et que si en plus ça marche pas, t'as pas de chômage. Parce que c'est ça la réalité, Pénélope. Je sais pas si t'es au courant, mais si jamais,
ah bon,
tout, ça,
really
si jamais tout ça foire, t'auras pas de chômage.
Mais moi, ça foirera pas. Hein.
Ben non, ben, je le sais.
Mais du coup, d'accord, parce que moi, j'ai déjà eu le débat avec un CEO à qui je disais qu'il n'était pas entrepreneur. Il me dit, mais tu prétends que je ne suis pas entrepreneur. Je dis, t'es pas entrepreneur. En effet, tu ne mets pas en jeu ta vie, quelque part. Et il me dit, en fait, le fait de virer 50 personnes, parce que je suis dans une grosse boîte et il faut que je vire les gens.
Mais attends, je ne dis pas du tout, il n'y a pas de condescendance. Ce que tu dis ou dans ce que je dis, j'ai aucune condescendance. Moi, je trouve que ce qu'on fait, je ne sais pas moi, Eric Schmidt chez Google, je suis incapable de le faire. C'est extraordinaire. Je n'ai pas de sujet là-dessus. Il n'y a pas aucun jugement de valeur, tu vois. Je peux te prendre, je ne sais pas moi, Patrick Lelay, Nicolas de Taverneau, il est plus proche d'un entrepreneur que Patrick Lelay ne l'était, mais des grands patrons de toutes les sociétés du CAC 40, ce qu'ils font, je suis incapable de le faire.
Et oui, ils ne t'intéressent pas à ton micro.
Alors, sur le CAC 40, c'est différent. Je pense qu'on fera des choses. La seule difficulté, la raison pour laquelle j'y arrive pas, c'est que souvent, ils sont bardés de communicants et que j'en ai un ou deux, tu vois. J'adorerais avoir... Pouyanné, qui est le patron de Total. Mm-hmm. Parce que Total, c'est un peu le mal, tu vois. Mm-hmm. C'est affreux, tout le monde crache sur Total. honnêtement, Total, c'est un acteur économique français de premier rang. Tu peux pas juste dire c'est mal, en fait. C'est une boîte qui est en transformation, ça s'appelle Total Energy. Je cherche pas à excuser quoi que ce soit, mais enfin, oui, ils viennent de l'énergie fossile, mais ça se transforme. Bon, Pouyanné, je sais que c'est quelqu'un de super freestyle, avec qui je pense que je m'entendrai bien et sur lequel je ferai un épisode hyper solide. Cependant, qu'est-ce que veut sa communication autour, qu'il respecte, c'est The DL, ces éléments de langage. Et moi, je suis là sur des formats longs pour faire voler en éclats les éléments de langage, parce que ça m'intéresse pas, les éléments de langage. Je suis pas là pour qu'on me raconte ce que tu racontes dans une matinale. D'ailleurs, dans les matinales, souvent, on va avoir une Léa Salamé qui va essayer de faire péter tes éléments de langage. Et puis toi, tu vas devoir tenir dans un ring 6 minutes. Non, je veux parler de ça. C'est pas ce qui intéresse nécessairement tout le monde. Et ben moi, je cherche à faire ça. Donc, ils sont souvent retenus par leur com, ceux que je contacte, dont je crois Yanné, qui n'est pas forcément très chaude pour qu'ils viennent.
Mais est-ce que le risque, c'est que si tu prends des CEO du CAC 40, les gens vont dire, ah oui, d'accord, en fait, c'est pas que des founders, moi aussi.
Ça peut être des séries spéciales, si tu veux.
Tu t'en sors comme ça.
Non, mais en fait, c'est quand même. Sachant que je suis quand même aussi au milieu de l'économie française, d'un écosystème, etc., c'est aussi intéressant de voir. De l'intérieur, quelle est leur vision, qu'est-ce qu'ils voient de l'impact de l'IA, des évolutions sociétales, sociales, de, je sais pas, la souveraineté, de plein de choses comme ça. Je pense qu'il y a énormément de choses à creuser sur du temps long. En revanche, la seule chose sur laquelle je transige pas, même avec eux,
et on coupe pas.
Non, on coupe pas, et puis c'est 3 heures, quoi. Si c'est pour venir me faire même une demi-heure, enfin, même une heure pour certains qu'on m'a proposé, je dis non, en fait. Ils disent oui, mais tu comprends pas, c'est un ministre. Je dis, mais, enfin, c'est l'équivalent d'un ministre. Je dis, mais je m'en fous, en vrai. Des ministres, j'en ai déjà eu, j'en aurai d'autres. C'est pas le sujet, quoi.
Et t'es pas prêt à les payer, eux?
Je payerai jamais un invité.
Jamais. Et on t'a déjà payé? T'as déjà accepté?
Non, jamais.
Mathieu Stéphanie?
Jamais, même pas en rêve.
Mathieu Stéphanie?
Ouais.
Jamais.
Non, j'ai mes sponsors qui me payent, jamais. Tu me donnes envie avec ton sourire de me faire marrer. Non, jamais, mais même pas en rêve. Et on me l'a proposé.
On t'a proposé combien, le
15 000, 20 000, 30 000.
Putain, 30 000 pour passer dans ton podcast.
Ouais. Non, c'est quelqu'un que probablement on aurait fait un bon épisode, mais tu sais quoi? Qu'est-ce qui se passe si t'acceptes 30 000? Tu vas voir quelqu'un qui est le patron, souvent, en plus, c'était à chaque fois le DG France ou le numéro 2, ou déjà, c'était pas un entrepreneur, en plus, c'était pas le numéro 1, donc, enfin, y a rien calé, tu vois. Et d'ailleurs, tu le vois, hein, regarde, chez certains, de temps en temps, tu vas voir un invité,
tu sens bien qu'il a eu un petit.
Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ou elle a fait ça? Et puis tu dis, ça marche pas. Là, en l'occurrence, j'ai refusé, après, tu vois chez qui il passe, hein. Mais derrière, t'as un.
Chez qui il passe,
je peux pas te le dire, ça. Je ne crache pas sur les copains.
Je pense qu'on sait, j'ai qui passe.
Et en l'occurrence, ils. Ils arrivent à. Ils viennent. Je ne ferai pas de commentaires. Tu les vois passer, tu les. Je ne sais pas de qui tu parles, en plus, je ne sais pas de qui elle parle.
Bien sûr.
Et en fait, ils passent chez d'autres, mais derrière, ils te demandent un final cut. Ils sont obligés.
C'est-à-dire, final cut.
Ils vont te dire, attends, ça, tu dois l'enlever, ça, tu dois.
Ah, ils te demandent de couper.
Telle question, tu peux pas la poser. Enfin, moi, ça fait un épisode.
Même à 30 000.
Surtout à 30 000. Ils te disent, attends, j'ai payé 30 000 balles, mec. Attends, je peux quand même choisir ce que j'ai à la fin. Et oui, mais du coup, tu finis sur un publi reportage. C'est affreux.
Et en fait, donc, ça, tu n'as jamais accepté.
Non, mais c'est en fait, alors moi je suis un enfant des médias. Mon premier job c'était dans le quotidien gratuit Métro, qui avait en plus, tu vois, qui était gratuit, donc publicité plus. Il y a toujours une frontière très forte entre la rédaction et la pub. Mais genre pas très forte, enfin infranchissable. J'ai toujours travaillé.
Même si le public rédactionnel existe. Hein,
mais c'est indiqué. C'est indiqué. Moi, quand j'ai un sponsor, je dis toujours que c'est un sponsor.
Obligatoire, donc.
Avant que ce soit obligatoire, moi, je le disais toujours. Je remercie mon sponsor, Club Med, de nous avoir machin. Je remercie.
Merci de ne pas avoir invité Pierre Boeuf.
Exactement. Et même dans ma newsletter, c'est écrit en italique, c'est différent. Enfin, tu vois, je fais très attention à différencier tout ça. Cependant, même mes sponsors, en revanche, je les choisis. Et j'ai une ligne très claire là-dessus, c'est que je vais jamais pousser un sponsor que j'aime pas. Tu vois, ou qui correspond pas à mon délire, quoi, tu vois. Si on me demande de faire la promo d'une voiture que j'aime pas, d'une montre que j'aime pas, d'un truc que j'aime pas, je vais pas le faire parce que ça sonne trop faux.
Genre, on te propose une Lamborghini, mais tu préfères Maserati, tu dis non, quoi.
Bon, Lamborghini Maserati, je dis oui aux deux, mais non. si tu me proposes une, je sais pas, une Dacia Logan, tu vois, ce serait moins dans mon délire.
Et donc les gens,
moi, je sais même pas si je dirais oui à une Lamborghini en vrai, tu vois. Je...
Arrête,
non mais c'est rigolo, mais c'est pas, je préférerais, tu vois, je préférerais Tesla, tu vois. Bah, tout le monde préférerait Tesla peut-être, mais bon.
Oh non. Non. Le truc avec la porte impossible à ouvrir là, avec
Model X, ouais.
Mais c'est vraiment... Non, parce qu'en fait, les gens, ils me demandent tous comment je fais pour me passer ce mal. Comment t'as fait, toi? Je te... mais moi, je suis un personnage extraordinaire. Non, moi, je dis, mais moi, je suis passé le 15 août déjà, tu sais. Non, mais les gens, ils disent.
Comme si ça avait pas fait d'audience. Tu l'as pas senti passer le passage sur Génération Vite Yourself?
Écoute, j'ai eu quelques messages. Non, d'ailleurs, tu sais quoi? On va te faire un petit cadeau.
C'était trop cool, cet épisode avec toi. Je crois qu'il y a une semaine sans qu'on m'en parle pas. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que finalement, il y a très peu de personnes qui me posent des questions business et entrepreneuriales et qui me demandent en fait comment est-ce que ça fonctionne en interne, tout ce que je fais. On s'intéresse à ma casquette de militante, de leaduse d'opinion, d'autrice avec l'aspect vraiment créatif. Mais du coup, le fait que tu aies réussi à mettre en exergue le fait que c'est pas que je suis une artiste, c'est que je suis une entrepreneuse qui entreprend des projets artistiques. C'est un truc qui m'a fait kiffer. Et j'ai découvert un math qui n'était pas que analytique, qui n'était pas que KPI et qui n'était pas que valo et croissance, mais un math aussi qui parlait de son statut de père, qui parlait de tout ça.
Sache que je suis très, 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 très heureux d'avoir fait ces podcasts et surtout aujourd'hui de te compter parmi mes amis. Voilà, Paul, je t'embrasse.
Ça a été un vrai plaisir de faire cet épisode avec toi. Pour tout te dire, on m'en reparle encore alors que ça fait 2 ans qu'on l'a fait. Donc ce que tu as créé, c'est absolument incroyable.
J'avais adoré raconter mon histoire à ton micro. Ça m'a fait réaliser encore plus que les gens s'attachent aux marques pour les histoires qu'il y a derrière.
Alors pour moi, le fait de passer sur ton podcast, ça m'a permis de partager et d'assumer un gros cran de plus le feu sacré que j'ai à l'intérieur. Ça a déclenché une sorte de tsunami, premier épisode comme le deuxième. Tsunami de retour Nicolas et témoignage qui me dépassait complètement et c'était vraiment hyper touchant.
Moi, j'ai adoré faire cet épisode de Génération Do It Yourself. Donc merci, Matt, d'avoir pris ce temps-là avec moi.
Arthur Aubeuf, ouais, que j'ai vu il n'y a pas longtemps.
Tous ces gens nous ont envoyé ce petit message pour te remercier.
Trop sympa.
Parce qu'en effet, Mathieu Stéphanie, bien sûr que je l'ai senti passer et tous ces gens... le sentent passer parce que quand on passe chez toi derrière, il se passe des choses. Ça change leur business, ça change leur vie. Nicolas, ça lui a changé sa vie. C'est énorme, quoi.
Non, mais honnêtement, c'est un truc. Merci déjà, je suis un peu ému, tu vois, de ce que tu me... je le réalise en fait au fur et à mesure, tout ça. C'est-à-dire que mon podcast change des vies et il change la mienne. Il change celle de beaucoup d'auditeurs qui me le disent au quotidien et il change celle de beaucoup d'invités. Et tu vois, il y a des gens pour qui ça va être, tu vas signer 2 clients, bon c'est bien. Il y en a pour qui ça va être, tu vas signer 2 énormes clients qui vont tout changer. Il y en a pour qui ça va être, tu vas signer enfin littéralement 1000 clients, 5000, enfin, mais pas que des clients. En fait, tu vas faire des rencontres, tu vas rencontrer ton futur associé, tu vas vendre ta boîte, tu vas, enfin, presque sur chaque épisode. Encore ce matin, j'ai 2 invités récents qui m'ont dit. Tu vois, qui me disent « Waouh, je m'y attendais pas et ça m'a donné plein d'idées, il faut que je t'en parle, j'en ai un juste après là en sortant et qu'il faut que je rappelle parce qu'il me dit « Je suis à New York, mais je pense à toi, Clément Benoît ». Et c'est marrant parce qu'en plus, on sort un épisode qui est très tech, très machin et tout, et sur lequel on n'a pas eu le temps parce qu'on était tous les deux pressés d'avoir d'atomes crochus après, tu vois, de se parler, de puis là, tu sens qu'il y a un truc qui se passe. Et en fait... En fait, c'est de la folie. Honnêtement, moi, je pense que tu te régales, et je le vois d'ailleurs, je ne pense pas, je le sais dans ce métier, mais je vois pas de meilleur endroit où être pour moi, en tout cas, tu vois, là où je suis à faire ça. Je le prends comme un cadeau, je m'arrache pour pas que ça s'arrête, tu vois, essayer de faire mieux et différemment. Et voilà.
Et aujourd'hui, c'est le Graal de passer chez Mathieu Stéphanie. C'est presque mieux que de passer sur TF1 quand on est entrepreneur.
En fait...
Est-ce qu'il vaut mieux faire 8 capsules sur TF1 ou passer chez Mathieu Stéphanie?
Non, mais tu sais que j'ai eu la chance la semaine dernière de dîner, me demande pas qui, mais avec
qui?
Un... Baudin, tu sauras vite, de toute façon, tu comprendras vite, et puis vous aurez tous vos réponses, mais avec un ministre chez un de mes anciens invités, et qui, en fait, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, mais qui ne cachait pas vraiment qu'un jour il serait candidat à la prochaine présidentielle. Et
d'accord.
Puis je lui dis, mais de toute façon, si tu veux faire ça, il faut le faire chez moi. Tu vois, il n'y a pas de... Et là, il y avait plusieurs gens des médias autour de la table, dont pas mal, quelques anciens invités Pierre-Antoine Capeton, enfin quelques personnes qui lui ont dit, alors que tous ils sont plutôt dans la télé et tout, ils ont dit mais c'est clair, mais ce genre de truc ça doit être fait dans un podcast comme ça sur du temps long.
T'imagines
pour expliquer
si on
tout
annonce
ça
une candidature chez toi
et puis après t'auras tous les extraits pour les réseaux sociaux, c'est exactement là où faut le faire, etc. Et c'était marrant d'avoir des gens des médias traditionnels qui me soutenaient là-dessus. Ouais, ce serait assez rigolo après. Ouais. Oui, non, c'est sûr. Après, ce qui est intéressant, c'est que moi je cherche pas à faire des... J'essaye d'éviter les instants promo, tu vois, les sorties de livres et tout.
Parce que c'est une promo.
Mais là, non, là, c'est un moment de l'histoire, en fait. C'est ça qui est drôle. Si t'arrives à avoir un truc comme ça, c'est que tu captes.
Mais si jamais un jour t'as les candidats à la présidence, ciel, est-ce que t'as ce truc de droit de parole, temps de parole, faut que tu respectes?
Je sais pas, jusqu'à ce qu'on me le dise, je m'en fous. Et puis si un jour on me le... Non, mais c'est un vrai sujet. Au-delà du temps de parole, tu vois.
La partialité.
Là, récemment, j'échange avec les équipes de Ruffin. Tu vois, donc je le dis sans m'en cacher, mais je pense que j'aurais vraiment beaucoup de mal à recevoir un Mélenchon qui m'attire pas beaucoup, qui m'a pas l'air très sympathique, qui à chaque fois que je l'entends me tend, en fait, très agressif, très et je trouve qu'un Ruffin qui est potentiellement, tu vois, pas forcément proche de mes idéaux, à chaque fois que je l'entends je me dis tiens. Quand je sais pas que c'est lui à la radio, etc., je me dis tiens, c'est marrant, c'est pas exactement mes opinions sur tout, mais je trouve que ce qu'il dit est entendable, voire il y a du vrai, tu vois. Et donc j'aimerais bien enregistrer Ruffin, mais j'aimerais bien enregistrer d'autres personnes du centre, peut-être un peu de droite, un Sarko, j'aimerais beaucoup avoir Sarko, j'aimerais avoir je pourrais t'en citer plein.
Si Mélenchon se présente, il faut que tu les reçoives tous, quoi.
Oui, peut-être. Mais aller me claquer, tu vois, je sais pas, un Zemmour ou... je suis pas sûr, tu vois.
Justement, intéressant pour le débat et tout.
Peut-être. Non, et puis après, j'ai pas envie d'être aussi... Mais il y en a aussi qui te bananent bien. Il y en a qui savent vraiment te manipuler, etc. C'est le cas de Mélenchon, d'ailleurs, tu vois. Donc, après,
il est fort, hein, Mélenchon.
Et après, t'as le droit d'avoir tes lignes, etc. Mais c'est aussi c'est un des trucs que j'entends. Et tu vois, si je dois revenir sur un Joe Rogan, pardon, je digresse peut-être un peu, mais je trouve ça intéressant, c'est que on reproche beaucoup, en dehors de Paris, à une forme d'élite parisienne, bobo, etc., de bouder ou d'exclure l'extrême droite en particulier de tout leur contenu et de dire en gros ça c'est sale, tu vois. Et qu'est-ce qui fait à ton avis le succès d'une chaîne comme
CNews?
Ben c'est ça, en fait, c'est qu'ils y vont les deux pieds dedans et ils se disent non mais attends, nous on donne la parole à tout le monde et en particulier à ceux-là, tu vois. Et donc je pense qu'il faut éviter de tomber dans un écueil où tu dis y a des gens que je peux avoir et d'autres non, jamais, plutôt mourir, tu vois.
Oui, donc tu recevrais tout le monde.
Peut-être. Je suis en réflexion.
En contradiction sur...
Non, je suis en réflexion. C'est pas un truc qui est clairement défini. Après, je peux aussi choisir de recevoir comme bon me semble. Je suis pas un.
Je sais pas si t'as le droit, s'ils sont candidats à la présidentielle, de donner la parole qu'à deux.
Je pense
pas...
que ça c'est pour la télé, la radio on air. Moi, j'ai pas de. En fait, toutes ces boîtes-là ont des canaux qui sont attribués par l'ARCOM et par tout ça, et c'est l'ARCOM qui contrôle ces choses-là. Moi, j'ai le droit d'avoir, si je veux, un média d'extrême droite ou d'extrême gauche et de faire passer que des gens d'extrême droite ou d'extrême gauche.
Il y a eu un reportage dans l'œil du 20h sur. TF1 ou France 2, et justement un reportage sur le podcast où la journaliste va écouter des podcasts d'extrême droite en disant « c'est inadmissible de laisser ce contenu-là ». Ils ont appelé Spotify en disant « vous filtrez pas », ils ont appelé Ocha en disant « vous filtrez pas ». Les mecs disent « bon, on ne peut pas filtrer ». Sauf que derrière, d'où on a ce contenu-là, et donc il est en train d'avoir une politique pour justement filtrer tous les contenus. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que ce serait que le podcast qui laisserait autant de contenus d'extrême, quoi.
Alors, tout dépend de ce qui est dit dedans. En fait, il y a des choses qui sont légalement légales et puis des choses qui ne le sont pas. Tu vois, aux États-Unis, tu as une liberté de parole extrême. Je doute que Spotify ou Apple filtrent ce genre de choses. Ce n'est pas leur politique.
Ils laissent tout passer, quoi.
Ouais, ils enlèvent le cul parce que ça, les seins et les choses qui passent sur Instagram, c'est gravissime. Mais en revanche,
les
suprémacistes, ça va. C'est OK.
Bon, donc, si jamais je suis CEO, je ne passerai jamais chez Mathieu Stéphanie.
Après, si j'ai pas fondé la boîte, en l'occurrence, c'est quelque chose que je compte pas faire dans les grandes lignes. Ouais.
Très bien. Et si je suis entrepreneur, mais que j'ai pas levé des millions ou été une licorne ou je sais pas quoi, a priori, je passe pas chez Mathieu Stéphanie.
T'as levé des millions et t'as été une licorne, toi?
Non, mais moi, je suis déjà passé, je vais pas repasser une deuxième fois.
Oui, non,
mais si jamais.
Non, ça n'a pas de. Je suis pas du tout dans les licornes. Donc, c'est évidemment. En fait, ce qui est intéressant, c'est de
attention,
voir...
parce que là, tous les entrepreneurs qui nous écoutent vont t'envoyer des messages, quoi.
Non, mais ils peuvent envoyer des messages après.
Bah, comment tu les sélectionnes?
Généralement, c'est plutôt nous qui allons les chercher. Après, on a un email qui est contact@gdi.fr.
Mais en vrai, tu n'y réponds jamais.
Non, on n'y répond pas, mais on regarde à peu près tout ce qui passe.
Oui, mais est-ce que combien de personnes t'as rappelé qui t'aient contacté?
Écoute, peu, mais ça arrive, ça peut arriver.
En fait, c'est un peu comme la relation de séduction. Puis moi, je te suis, quoi. Si je te dis trop que je te kiffe, tu vas jamais m'appeler, quoi.
Il y a un peu de ça, oui, tout à fait. Après, les gens, en effet... Alors, il y a un truc que je fuis absolument dans les règles, mais je pense que ça, tu le sais, mais et tu le fais, j'imagine. Mais moi, j'appelle ça la voiture balai. C'est que si tu as fait 3 podcasts, 4 podcasts, ou que tu viens d'en faire plein, je prends pas, tu vois. Et ça, ouais. En effet, il y en a qui sont très habitués de plein de podcasts, ils viennent vers moi et me disent j'ai fait tous les podcasts, puis celui-là, et puis celui-là, et puis celui-là il y a 2 semaines, et celui-là il y a 3 jours. Je dis justement, bah oui, c'est super en fait, mais qu'est-ce que je vais sortir de plus?
Mais tu te rends compte, ça se trouve, Mathieu, il y a des gens là qui savent cette technique-là de ne pas te contacter, qui se tairent chez eux parce qu'ils attendent que tu les appelles, et tu ne les appelles pas parce que tu n'y connais pas.
Non, mais après, il y a des. Après, c'est subtil, il y a des gens de confiance ou des gens par recommandation. Évidemment, quand j'ai des gens qui m'ont recommandé 1, 2, 3, c'est pas du piston, c'est que je sais, mais typiquement, il faut pas qu'ils aient des intérêts non plus, tu vois. Souvent, j'ai des gens par recommandation, ils vont m'envoyer quelqu'un dans une boîte dans laquelle ils ont investi, là évidemment donc je leur dis et puis il y en a qui se grillent, tu vois, et qui m'envoient des gens, et puis ça fait bon. Et après non. Mais dans l'absolu, j'essaie de chercher aussi des sujets, tu vois, je sais pas, qui changent le monde, ou qui, là, je suis à donf sur l'intelligence artificielle, sur.
Oui, d'ailleurs, bon, ça va, on en a assez des intelligences artificielles, là.
Non, j'en ai pas du tout assez.
Si, ça nous saoule, change, putain.
Non, mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait, là.
Ah, oh, bah, dis donc.
Non, j'ai pas fait Mistral encore, j'ai pas fait, il y a plein de choses, mais c'est que le début, je crois que tu te rends pas
Mistral,
compte.
Mistral, le mec d'Alan?
Oui, alors eux, ils ont investi dans, enfin, ils ont cofondé, mais ils sont pas opérationnels. Mais, ouais, il y a Mistral, enfin, c'est que le début, hein. C'est vraiment que le début. C'est pas que dans mes contenus, je veux dire.
Oui, je sais bien.
Ça va tellement tout changer qu'il faut tout comprendre.
À quel point tu prépares, Mathieu Stéphanie? Sois honnête avec tes auditeurs et tes auditrices.
Non, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que tu peux te dire c'est très peu de boulot. J'ai une équipe, hein, Génération Audit Yourself, c'est l'équivalent de 3 personnes full time. Comptant la vidéo, ouais, c'est à peu près ça. Et donc Clémence qui fait la programmation, enfin qui est la productrice. C'est son business. Moi, je suis l'animateur et je l'aide à choisir, ou on choisit ensemble les invités, mais c'est un peu le gatekeeper. Donc d'ailleurs, ceux qui veulent passer, c'est plutôt Clémence Lepic qu'il faut convaincre plus que moi. Comme ça, j'en balance la patate chose. Et elle est aussi sur contact@gdi.fr. Donc on lit tous les deux. Hein. Voilà, adressez-vous directement à elle. Et elle prépare pas mal les épisodes, des questions, des recherches, des choses comme ça. Moi, ce que je fais, c'est que s'il y a des livres à lire, un livre à lire ou quelque chose, je vais le lire dans les grandes lignes. S'il y a des séries ou des choses à voir, enfin quand il s'agit d'artistes notamment, je fais évidemment attention à tout ça. Et après, j'aime bien la découverte. Donc, ce qui est assez drôle, c'est que sur La Martingale, qui est un plus petit podcast qui fait à peu près un quart de la taille de Génération Audit Yourself, et bien, je fais une demi-heure de préparation avec l'invité, alors que c'est un podcast qui dure 1 heure. Sur Génération Audit Yourself, je les vois pas avant.
Parce que c'est plus spécifique.
Oui, c'est plus spécifique. Mais ce qui est assez marrant, c'est que tu vois, c'est pas une question de ni en fonction de la durée de l'épisode, ni en fonction de l'intérêt spécifique. C'est vraiment ou du volume d'écoute, c'est plus que je veux pas faire de prépa, j'aime bien découvrir mes invités, souvent je les connais pas toujours, mais je les connais pas, je les découvre, et donc tu rentres dans un truc ou une relation où t'es vraiment
Donc tu les bosses pas beaucoup, les gros?
Si,
quoi.
En gros, je les bosse c'est assez différent, et c'est pareil, tu bosses, ça veut dire quoi, tu vois, moi je bosse l'épisode que j'ai tourné ce matin, c'est quelqu'un qu'on chasse, Patrice Haddad, qui est le patron de Première Heure et de une grosse boîte de prod, et surtout qui a racheté le Red Star à Paris. Ça fait longtemps qu'on le chasse, qu'on échange. Depuis longtemps, j'avais lu quelques petits trucs, et puis hier après-midi, je reçois la fiche de prod avec toutes les choses. Je la lis, je lis dans le détail quelque chose, je regarde une ou deux interviews, et puis en fait dans ma nuit, souvent je lis ça avant de me coucher. Je relis ça avant de me coucher. Dans ma nuit, je processe en fait. Tu vois, je me réveille le matin, c'est beaucoup plus clair. Donc après c'est pareil, nous on est des. Enfin, je bosse jamais, je bosse tout le temps, mais tu vois, c'est aussi ma manière de bosser. Typiquement, je sais que si je bosse pas, si je fais ça le matin,
c'est pas assez frais.
C'est pas assez frais. J'ai besoin de décanter un peu le truc, tu vois. Mmh. Donc voilà, il y a du monde qui bosse et moi je fais le dernier truc et je sais pourquoi je l'invitais aussi. C'est ça qui fait partie dans la programmation, c'est que tu sais pourquoi tu veux
lui parler.
Je sais pourquoi je veux avoir Virginie Efira ou. Je sais pas moi, tu vois. Ouais.
Alors justement, qu'est-ce qu'on en parle de ce virage un peu celebrity là, Gad Elmaleh, Kev Adams. Alors tu t'es pris plein de taquets en commentaires et tout, comme quoi Génération Do It Yourself devenait Danse avec les stars.
Alors j'en ai pas pris plein
et quelques-uns.
En fait. J'en ai pris quelques-uns, mais ceux qui écoutent Génération Do It Yourself depuis le début savent que ça a toujours été plus ou moins le cas. Tu vois, dans les tout premiers épisodes, j'ai reçu Bernard Werber, un écrivain.
Enfin, c'est pas Kev Adams, Bernard Werber.
Non, mais en fait, c'est pareil. C'est Kev Adams, c'est un mec qui s'est lancé. En plus, hyper jeune. C'est quelqu'un, en fait, en plus, quand tu écoutes l'épisode, qui finalement, tu le sens potentiellement assez seul, enfin, en tout cas, dans sa gestion de l'ensemble de sa carrière et tout ça. Il est bien entouré, évidemment, potes, agents, etc. Mais c'est quand même quelqu'un qui fait ça depuis qu'il est ado, tu vois. Et moi, je trouve ça hyper intéressant de voir aussi. Tu vois, j'ai découvert dans cet épisode cette dualité entre un Kev qui a le même âge qu'un Squeezie, qui lui est parti paf dans une notoriété il y a 10, 15, 20 ans. Squeezie s'est venu petit à petit fait du net, etc. Et puis aujourd'hui, t'as finalement le plus cool, c'est Squeezie plutôt, et lui l'admet assez volontiers, mais il est en train de. Et donc en fait, il se livre sur plein de choses. Ça te permet d'avoir une vision du monde assez propre, tu vois. Et si t'écoutes ça de cette manière, plutôt que te dire ouais pourquoi il invite ces mecs là machin, et que tu prends un peu de distance, et je pense que t'apprends vraiment plein de choses, tu vois. L'année dernière, j'ai invité Noolita. Tu vois qui c'est Noolita?
Bon,
moi je savais pas trop qui était Noolita, et puis là j'échange avec l'agent de Léna, en l'occurrence, c'est Léna.
Ah, on va la voir, Léna Situation, quoi.
J'aimerais trop avoir Léna, mais lui me dit.
Alors, tu bosses un peu quand même, Léna Situation, que tu saches un peu qui elle est avant de la recevoir. Ah bon? Alors, comment s'appellent ces deux meilleurs amis?
Non, je connais pas dans les détails, mais évidemment, mais je connais, je sais ses modèles, comment elle a fait toutes ces choses-là, l'hôtel Mafouf. Et je me renseignerai, je travaillerai plus. Mais en l'occurrence, je pense que ça te permet d'avoir une vision du monde qui est en fait très réel. Il y a une fracture de ouf entre plein de nos potes, même je parle même pas de mes parents, hein, je parle de nos potes qui quand tu leur parles de Léna ou de Squeezie te regardent en disant
ils connaissent pas,
donc ils disent, hein, quoi,
bien sûr,
tu
bien
vois
sûr.
Et en fait tu vas voir tous les jeunes de 20 ans, je sais pas, vos potes, ça fait, y en a pas un seul qui se pose cette question, tu vois. Et ça, à la fois, je trouve ça hallucinant, à la fois, ça me fait même un peu peur par moment, tu vois, de se dire que, en fait, on vit à côté dans des mondes qui sont totalement parallèles, quoi. Tu vois,
mais t'as pas des copains qui n'ont pas de réseaux sociaux?
Si, j'ai des copains qui n'ont pas de réseaux sociaux, mais certains. Généralement, ils sont quand même au moins sur LinkedIn, mais dans le pire des cas. Ouais. Mais je sais pas si c'est mieux ou moins bien.
Non.
Non, mais tu vois, l'idée, c'est un peu.
Donc tu suis un peu tout ça.
Je suis grave tout ça. Ouais.
Ok, t'es plutôt Inès ou Natacha?
Je sais pas.
Oh
lesquelles, Inès ou Natacha?
Inès Reg ou Natacha Saint-Pierre?
Ah, Natacha Saint-Pierre, c'est vieux ça.
Non, on sait de quoi on parle là ou pas?
Natacha Saint-Pierre, je sais qui c'est, mais non.
Non, mais Inès et Natacha, la battle Inès et Natacha.
Non, ça je sais pas. Mais c'est là où je te dis qu'on vit dans des
mondes
divers.
Qu'est-ce qu'on pense du tifo de Redouane?
Le tifo de Redouane, c'est magistral. Mais
on valide ou pas?
Moi je valide, monsieur, survalide.
C'est-à-dire que on est OK d'avoir 1000 tifos de Redouane au match OM-PSG?
Bien sûr.
D'accord, c'est pas de la pub cachée.
Ben non, c'est pas de la pub cachée, c'est de l'amour pour Redouane qu'ils ont là-bas. C'est un monument qui est en train d'émerger de Marseille.
Donc, vive le tifo de Redouane.
Mais bien sûr.
Tu peux dire cette phrase?
Vive le tifo de Redouane.
Qu'est-ce qu'on pense de Abrèche Frère?
Tu vois, j'y viens, mais tu vois, moi aussi, il y a plein de choses. Tu m'en parles, Inès et Natacha. Moi, dans ma culture digitale, j'ai énormément de choses sur des sports extrêmes, du foot probablement un peu. Tu vois, tous les univers de ski, de Red Bull, de. Enfin, tu vois, moi, c'est là où,
Non, mais on parlait de l'ENA situation. Si tu suis l'ENA situation, tu suis l'ENA.
Non, mais je ne suis pas l'ENA situation tant que ça.
Ah bah, oui,
non,
voilà.
Mais je veux dire, je ne suis pas dans la cible, tu vois.
Mais ce n'est pas une histoire de cible, c'est une histoire de phénomène.
C'est une histoire de phénomène, mais je suis le phénomène, évidemment, de loin, comme tout le monde. Mais après, pas comme tout le monde, d'ailleurs, mais je le suis. Le phénomène médiatique.
Bon, Abrèche frère.
Abrèche frère, donc je vois très bien ce jeune.
Alors, qu'est-ce qu'on en pense?
Eh bah, ben, écoute.
La polémique.
Je pense que il a pas forcément fait gaffe à ce qu'il abrégeait, et que le problème est peut-être là, c'est qu'il a pas fait gaffe, donc il aurait fallu avoir plus d'hommes.
Tu crois qu'il a pas fait gaffe?
Je pense que c'est pas du tout volontaire. Je pense en revanche que c'est peut-être ça le problème. C'est peut-être que la société actuelle ou la culture fait que voilà.
Fait que quoi?
Bah, fait que, en fait, naturellement, un jeune homme comme ça va plutôt se moquer des femmes. Je me pose la question, est-ce que c'est très grave? Et est-ce que
de quoi?
De se moquer des femmes plus, enfin, t'as des podcasts qui vont interviewer que des femmes entrepreneurs. Il y avait Génération XX. Je pense que c'est très bien. Je pense qu'il faut aussi, tu reprends Redouane, tu parlais de Redouane Bougaraba, il va te balancer des insanités potentiellement homophobes, hyper racistes, hyper machin, mais c'est Redouane, donc ça va, tu vois. Et donc je pense qu'il y a aussi des moments...
Est-ce que c'est grave de se moquer plus des femmes que des hommes, c'est la question?
C'est la question. C'est une question. Est-ce que c'est vraiment grave? Et est-ce que c'est vraiment que sexiste? Et est-ce que c'est vraiment... est-ce qu'on doit tout prendre... moi, en fait, je trouve que... de loin où je connais ce dilemme, j'ai pas l'impression que ce soit un mauvais gars. Et j'ai pas l'impression que... il ait eu un dessein absolument de se dire « je vais décrédibiliser les femmes », tu vois. Ce qui est grave, c'est que dans l'absolu, certaines femmes n'aient pas accès à certains jobs. Ce qui est grave, c'est que certaines femmes soient payées moins que les hommes pour le même job. Ce qui est grave, ça, c'est grave, tu vois. Ça, c'est sur plein de choses comme ça sont très graves. Après, tu vois, il y a des choses qui changent. Moi, tout ça, ça me fait me poser énormément de questions. Ce qui est grave, c'est que, j'ai emmené ma fille au Parc des Princes la semaine dernière pour aller voir un quart de finale de Ligue des Champions féminine. Je précise que j'ai déjà emmené ma fille aller voir un quart de finale de Ligue des Champions masculine. Je l'ai pas emmené juste parce que c'est un match de filles et moins important, comme on pourrait l'interpréter. Bon, on est arrivé au Parc des Princes. T'as pas de dispositif policier, t'as pas de machin. Tu te gares devant le Parc des Princes, tu rentres dans le Parc des Princes. On te dit qu'il y a 11 600 personnes. Honnêtement, je pense qu'il y en avait 6 000. J'en sais rien. Tout ça, ça t'interpelle. Ça, c'est assez grave, mais... à la fin, tu vois, une des questions que je me suis posée, c'est que je voyais pas mal de jeunes filles qui étaient là, mais elles étaient par exemple toutes avec leur papa. Quoi ? Pourquoi elles sont pas avec leur maman ? Pourquoi c'est pas leur maman qui les emmène au stade de foot voir les matchs féminines ? Pourquoi ? Parce que le foot, c'est encore un sport de dudes, quoi. C'est un sport de mecs. Et c'est leur papa, et puis peut-être qu'elles emmèneront leur fille.
Mais pourquoi c'est un sport de mecs ?
C'est là où je te dis, c'est ce qu'on nous livre aujourd'hui, c'est la culture. Donc c'est en train de changer, mais tout ça, il faut partir avec ce qu'on a pour emmener vers quelque chose où petit à petit, les choses changent, tu vois. Il faut être acteur de ce changement. Mais encore une fois, sur Abrèche frère, je pense que le problème, c'est pas lui tant et ce déchaînement. Le mec, il s'en prend plein la gueule sur un truc qui est plus une résultante d'un système qu'il faut changer petit à petit sans forcément agresser les gens à chaque fois. C'est ça que moi que je dénonce.
Donc on est on résulte nos actes résultent d'un système, c'est pas grave. Parce que ça résulte.
Non, mais
système.
Tu dois y faire. Non, je dis pas que c'est pas grave. Je dis qu'il faut le dénoncer. En revanche, t'es pas obligé de cracher ton truc sur un type qui fait ses contenus et qui voilà. Mais si tu veux, tu peux venir défoncer Génération du Turself parce que j'ai pas une femme sur deux invitée sur mon podcast, tu vois. Il se trouve que à chaque fois, à chaque équipe de prod que j'ai eue, à chaque fois, j'ai eu que des productrices. Chaque productrice est arrivée en me disant « tu veux voir, on va changer les choses » et qu'à chaque fois, on n'y arrive pas à changer les choses. Si tu veux me cracher à la gueule pour ça, vas-y. C'est une résultante de la société.
Mais on te crache la gueule pour ça ?
Ça arrive. Mais So what, tu vois, je veux dire.
C'est pour ça que tu m'as prise pour le 15 août.
Exactement.
Tu n'avais pas de femme.
Il fallait une femme.
Qu'est-ce qu'on pense de l'affaire Jean-Michel Trogneux?
Jean-Michel Trogneux, je l'ai le nom, mais je ne la vois plus. Je ne sais plus.
Raconte-moi. Jean-Michel Trogneux. Brigitte Macron serait Jean-Michel Trogneux.
Ah oui. Non, mais en fait, alors tous ces trucs-là, pardon, hein, tu peux me dire. Mais alors ça, vraiment, j'en pense rien du tout.
T'en penses rien que potentiellement, Brigitte Macron?
Je pense que c'est de la désinformation de ouf, et je pense que ça ne m'intéresse pas. Et quand bien même elle serait un mec, et quand bien même Emmanuel Macron serait gay, mais tant mieux pour eux, tu vois, s'ils sont heureux, mais tant mieux pour eux, je m'en fous.
Okay.
J'ai vraiment, ça doit.
Et qu'elle aurait menti?
Je crois pas qu'un seul instant, bah, elle aurait menti, parce que pareil, en fait, on l'aurait pas élu, lui, ça aurait été tout un bordel, etc. Mais en fait, tu sais quoi, j'ai pas envie, dans ma journée, j'ai pas le temps pour ce genre de truc.
D'accord.
Et dans ma journée, j'ai pas envie quand je lis les news et ces choses-là, que, tu vois, mais même il y a des trucs plus importants, il y a un moment où des choses sur lesquelles j'ai pas de prise. En fait, j'ai pas envie de passer mes journées.
Ok, ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on pense de l'écriture inclusive?
Ça m'intéresse pas non plus.
Non, mais t'as bien un avis, non?
Ça m'intéresse pas.
T'es un peu le Michel Drucker, toi.
Non, je suis pas Michel. Si j'étais Michel Drucker, je te dirais, ah, c'est très bien, je suis pour.
Non?
Je dirais ça.
Tu dirais, ah, d'accord, bah, comme là, tu dis, j'ai pas d'avis.
Non, non, en fait, moi, je trouve ça chiant et en fait, je pense qu'on nous livre, pour le coup, t'as essayé d'écrire en inclusif, toi?
Essayer, oui, ça m'arrive d'écrire en inclusif. Oui.
Tu le fais tout le temps, tu fais que ça, tout le temps.
Bah, j'essaye.
C'est écrit en inclusif sur ta fiche, là.
Bah, tu vois, bah non, t'es un homme, donc j'ai pas besoin de dire homme ou femme. Mais,
Non, moi, je pense pas que le combat doive se faire ici. Même si je comprends les fondamentaux.
Non, mais est-ce que écrire inclusif, t'écris en inclusif, tu trouves que c'est la connerie, tu trouves ça super, tu dis Yel, tu mets auteur et auteurice, tu mets quoi?
Je mets autrice. Alors, il y a des mots comme ça pour lesquels, pour
mais
moi, c'est
tous.
Important.
Pourquoi certains mots sont plus importants que d'autres?
Alors, parce que... alors, je vais rentrer dans un endroit qui n'est pas ma grande spécialité, mais je peux y aller. Tu prends autrice, par exemple, il a été retiré par les sages de l'Académie française à un moment, parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait trop de femmes qui écrivent. Donc ça, c'est un problème, tu vois. Finalement, on dit entrepreneur, on dit entrepreneuse, on dit auteur, on dit autrice. Ça, je suis totalement pour et je suis féministe en ce qui concerne toutes ces choses-là. Peut-être que juste le « il » ou le « elle », en fait, à un moment, bah, moi, j'ai été éduqué dans un endroit où « il »,« elle », c'était comme ça, la conjugaison, tu vois.
Le « il » prévaut.
En fait, à un moment, tu vois, moi, je veux bien qu'on dise « elle prévaut ». Je m'en fous, à la limite. Ce qui m'emmerde...
Il n'y a pas question de dire « elle prévaut » non plus.
En fait, mais ce que je trouve un peu relou, c'est juste une question d'efficacité. Tu vois, moi, mes enfants, quand ils me récitent la conjugaison,
ouais.
Eh ben, ils disent
« il ou elle.
Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle ». Et à un moment, choisis, en fait, dis « elle », je m'en fous. En vrai, je m'en fous. On n'a pas le temps, c'est pareil. Peut-être redire il, elle, si tu passes ta vie à essayer de rajouter des complexités pour satisfaire tout le monde.
Parce que c'est plus hyper compliqué de dire elle.
Mais l'écriture inclusive, c'est hyper compliqué, c'est hyper chiant.
Bon, d'accord, donc ça te fait chier, l'écriture inclusive. Donc, ouais. Anatomie d'une chute.
Anatomie d'une chute, je l'ai pas vu et c'est une honte.
C'est une honte, on est
d'accord. Non, mais je le sais, j'ai pas vu Oppenheimer, j'ai pas vu Anatomie d'une chute.
Le chien de la
casse. J'ai vu Barbie. Non, mais j'ai beaucoup trop. Travailler ces derniers temps et j'ai
assez c'est pas
peu...
une excuse ça. C'est pas
non,
excuse.
Non, mais c'est vrai, mais je suis assez peu allé au cinéma. Voilà.
Est-ce et que donc... tu as vu Il reste encore demain?
Non.
D'accord, qui a fait 5 millions de téléspectateurs
non,
en Italie.
Non, mais j'ai pas vu assez de cinéma. Et en plus, je viens du cinéma, j'adore le cinéma et c'est une honte, mais j'ai pas d'excuse.
Très bien. Est-ce qu'on peut faire des blagues sur tout?
Je pense que oui.
Qu'est-ce qu'on pense des millennials?
J'en pense.
Qui nous cassent les couilles?
Non. Pas du tout.
Qui sont l'avenir?
Non, je pense que, tu vois, même si mon podcast s'appelle Génération du Turcel, je pense qu'il y a autant de cons dans chaque génération et qu'il n'y en a pas plus chez les millennials qu'ailleurs. Je pense que quand j'étais jeune, on trouvait que les jeunes étaient les vieux trouvaient que les jeunes étaient des cons et les jeunes trouvaient que les vieux étaient des cons. Je regrette que, en fait, j'ai pas assez de potes de 85 ans et de potes de 20 ans et je pense que. En fait, tout ça est une question de personnalité, pas de génération. Et les gens qui font des millennials en souhaitent un concept à la con.
Mouvement LGBT, tu saurais me dire la suite des lettres?
QX+.
Q quoi?
QX+, non.
X pour quoi?
Je sais pas.
QIA+.
Ouais. Attends, et je précise un truc là-dessus. Comment le dire ? Je vais le dire un peu avec... mais en fait, tout ça, je m'en fous. Mais quand je dis je m'en fous, c'est qu'en fait, je suis très heureux pour les gens qui font ce qu'ils veulent. Je milite pas pour quoi que ce soit. Moi, je suis là-dessus très, très, très libéral, en fait. Tant que ça m'atteint pas, moi, tant que les gens viennent pas m'emmerder, parce que voilà, si demain j'ai envie de changer de sexe, je veux qu'on me laisse changer de sexe, tu vois. Si quelqu'un, demain, deux hommes veulent avoir un enfant et qu'on estime qu'ils peuvent avoir un enfant, parce que pour moi, c'est ça qui prévaut. Il y a des hétéros qui vont avoir des enfants, je veux dire, t'as pas envie qu'ils aient des enfants. Et pour le coup, ils peuvent en avoir aussi facilement qu'ils le veulent parce qu'ils ont deux sexes opposés. Ça, bon, bah, on va pas les interdire, hein, c'est compliqué. Mais voilà, mais en revanche, donc, c'est pas mon combat à moi. Cependant, je le dis haut et fort, et je crois que la plupart des gens qui viennent sur mes podcasts aussi sont là-dessus souvent assez inspirants. Moi, que les gens se marient entre couleurs, orientation, ce qu'ils veulent, en fait, je suis très content pour eux tant qu'ils sont très contents pour eux. Voilà. C'est très important pour moi.
La retraite à 62 ans.
La retraite à 62 ans. Je pense que... je pense que plusieurs choses. Je pense que l'intelligence artificielle va changer beaucoup de choses dans les prochaines années qui vont faire qu'il va y avoir énormément de chamboulements dans le monde du travail. Donc il va faire que certaines personnes vont potentiellement ne plus servir à grand chose. Et là-dedans, on parle pas que des cols bleus, on parle beaucoup de gens qui font des Excel, des PowerPoint et des choses comme ça qui vont pas servir à grand chose du jour au lendemain. Et donc c'est probablement un progrès quelque part. Que en revanche, je regrette que, en tout cas, les Français et en France, on ait un narratif fondamental qui est que le travail c'est bien, mais que en fait, faut que ça s'arrête le plus tôt possible. En fait, moi, je trouve qu'on doit, au contraire, essayer de libérer les gens des travail, des tâches répétitives, ce que permettra l'IA, ce qu'a permis en partie la machine par le passé, et que plus on arrivera à faire ça. Plus on sera heureux dans le travail. Moi, je pense qu'il faut réussir à s'épanouir dans le travail. Je te l'ai dit tout à l'heure à quel point je l'étais moi. Je souhaite ça à tout le monde d'être épanoui dans son travail.
Mais est-ce que tu crois vraiment que les ouvriers peuvent l'être ?
Non, les ouvriers probablement pas. Et encore, peut-être, si, à un moment. Quand tu écoutes certaines personnes qui sont passées chez moi, mais bon, tu peux l'être autrement, par le lien social que ça crée, d'être à l'usine, en bossant 4 jours par semaine pendant 35 heures.
Les gens qui sont passés chez toi, c'est pas des ouvriers d'usine ?
Non, mais en revanche, t'as des gens qui sont passés chez moi, Laurent de la Clergerie, qui est un des premiers à avoir...
Laurent de la Clergerie,
mais
Mathieu...
Oui, mais qui a fait... Tu connais pas, c'est le français qui a
déjà, il s'appelle Laurent de la Clergerie.
LDLC, qui a monté cette boîte qui...
De caisse enregistreuse.
Non, LDLC, c'est l'équivalent, une sorte de mini Amazon français. Et c'est le premier à avoir proposé la semaine de 4 jours dans sa boîte, sur 32 heures. Et qui te montre qui te prouve que ça n'a rien changé au...
Mais il n'a pas des usines avec des gens qui sont...
Si, il a des tas de gens qui expédient, il a des gens qui font de la logistique. Et donc, moi, je pense qu'il faut espérer travailler le plus longtemps possible, mais dans les meilleures conditions possibles. Voilà.
Le fait qu'on puisse plus dire lardon végétal. Sais que tu t'en fous, mais qu'est-ce
que tu en as ? Non, ça, tu vois, c'est parce que je te parlais de liberté tout à l'heure, je trouve ça aberrant. En fait, tu vois, la raison pour laquelle on peut plus dire du jambon ou du lardon végétal, c'est que le législateur estime que on va embrouiller le consommateur. Est-ce que tu crois
que c'est pas... le lardon, c'est du bacon, et donc par définition, le végétal.
Est-ce que tu vois, si marqué lardon végétal ou jambon végétal, les gens sont assez cons.
Non, mais les gens qui veulent du végétal ne veulent pas des lardons végétaux.
Figure-toi que je te prendrai la photo, j'en ai chez moi.
D'accord, parce que tu t'es dit, tiens, expérimentons le lardon végétal.
Non, parce que j'en achète fréquemment.
Arrête, Mathieu, regarde ton sourire qui manque.
Je vais te montrer deux photos. Vendredi, j'ai acheté du jambon végétal.
Mais bien sûr, parce que tu t'es dit, tiens, finalement, c'est pas si dégueulasse. En fait, ça passe, ma chérie, goûtons.
Non, je vais te dire pourquoi. Et ça, c'est presque militant de ma part. C'est que j'ai reçu le patron de La Vie, qui fait du lardon et du jambon et des végétales sur Génération Eat Yourself, que, en fait, moi, je suis pas du tout ni végé ni vegan. Et je continuerai à ne pas être végé ou vegan. Mmh. J'aime la viande. Cependant, quand il t'explique qu'en fait, 90% des cochons qui sont tués pour faire ton jambon, ton saucisson, tes lardons, ne voient pas la lumière du jour.
Mais t'as besoin que Paul Lelay vienne dans ton podcast pour t'expliquer
non,
ça.
Non, c'est pas la belle vie, c'est la vie, c'est la marque du jambon. Il s'appelle Nicolas Schweitzer. Et en fait, quand il vient m'expliquer que 90%... Moi, en fait, je le savais pas, 90%. 90%, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que tous les jambons que tu vas manger de chez Florent Michon, de machin, de trucs, c'est des bêtes qui sont en
batterie. Mathieu qui vient de sortir de sa grotte. Ah bon, ils sont pas en train de courir.
Et toi, t'en manges.
Moi, je mange pas, moi, je mange que du poisson.
Ça fait 20 ans que je mange que des. Depuis que j'ai découvert que les poulets en batterie. Je fais que des œufs poulets en plein air, des poulets en plein air, des choses comme ça. Je fais attention à ça. Le bien-être animal m'est important.
Très bien. Est-ce que Hanouna doit être sanctionné par l'ARCOM ?
Moi, je suis pour la liberté d'expression. Ce que fait Hanouna, les gens sont suffisamment grands pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Et honnêtement, je pense pas qu'Hanouna doive être sanctionné. Je pense que Hanouna, il fait ce qu'il veut et les gens doivent le prendre avec. Les gens doivent être assez grands. Et la France devrait plutôt faire attention à mieux éduquer les gens pour qu'ils aient la distance nécessaire pour écouter des gens comme ça plutôt que d'essayer tu vois, j'ai plus une approche anglo-saxonne, voire américaine là-dessus, qui est de dire laissons les gens parler, en fait. Tu vois, il y a des choses qui me dérangent, le négationnisme, les choses comme ça. Bon, ça me dérange un peu, mais en vrai, ils racontent des conneries, mais de toute façon, regarde toutes les conneries qu'il y a de raconter sur les réseaux sociaux, regarde les conneries qu'il y a de raconter sur des podcasts, comme tu le disais, sous le manteau. Je pense que, en fait, c'est pas un gros problème.
Est-ce qu'une nana peut dire à un mec qu'il est sexy ?
Oui. Moi, je trouve qu'on me le dit pas assez. Je pense que je suis pas sexy, du coup, c'est un problème. Voilà.
Je ne te le dirai pas, Mathieu.
C'est un mec peut dire à une nana que c'est une salope. Pardon.
Est-ce qu'un mec peut reluquer une fille et lui dire qu'elle est jolie ?
Ça dépend. C'est de plus en plus compliqué. Ça dépend.
Mais toi, tu penses quoi, toi ?
Eh ben, je pense que je le fais pas,
parce que t'as peur de te faire taper dessus.
Ouais. En fait, ce qui est bizarre, c'est que si tu dis ça, et ça peut m'arriver avec un sourire à une vieille dame, et que ça lui fait plaisir et que vous êtes machin. Ben ouais, mais c'est ça. Mais en fait, c'est aussi ça qui est compliqué. C'est que, tu vois, et évidemment, elle est jolie. En fait, tout dépend de comment t'interprètes ça et comment en fait, aujourd'hui, on vit dans ce monde-là où, en fait, t'as une différence entre t'es bonne, t'es jolie et j'aime beaucoup ta coupe aujourd'hui, Pénélope, sur quoi tu vas me répondre. Ah, parce que d'habitude tu n'aimes pas ma coupe. Et donc il y a tout un gradient là-dessus. Et toi, t'as ton gradient à toi qui est de percevoir ce que je veux dire. Et si moi je suis dans le truc le plus précautionneux, mais que toi t'es dans ton gradient qui est pas le mien et qui est de dire donc ce qu'il veut dire là c'est ça, bah aujourd'hui boum, tout est électrique. Donc en fait, j'aurais du mal à voir un mec qui viendrait, un de mes potes qui vient me dire, putain, elle m'a dit, t'es sexy, honnêtement, je suis choqué, je lui dirais, mais t'es vraiment un connard, en fait, tu vois, je lui dis, mais dans quel monde on vit? Et en effet, à l'inverse, si un de mes potes me dit, je lui ai dit qu'elle était jolie et elle était choquée, je dirais, mais comment tu lui as dit? Tu vois, la première réponse, ce serait ça, donc voilà.
En vrai, tu serais choqué que la nana dise, what the fuck, je suis choqué.
Bah, ça dépend de comment il lui a dit. Si tu vois une meuf et que tu regardes son cul dans la rue et tu dis Josiane, t'es bonne,
déjà, c'est bizarre qu'elle s'appelle Josiane. Qu'est-ce que tu penses des propos de J.K. Rowling sur les trans?
Je l'ai, oui. Donc, qui est l'autrice
de Harry Potter.
C'est un peu pareil, je sais plus, les femmes sont trans.
Les femmes trans sont des hommes en robe. Ne se prononce pas.
Non, mais en fait, c'est une personnalité publique. Je veux dire, si ça vous choque, achetez pas ces bouquins. Voilà, on s'en fout.
Toi, tu lis Harry Potter ?
Ma fille a lu tous les Harry Potter
Même si elle dit ça, on s'en fout, ça change rien.
Elle sait qu'elle a dit ça. Ma fille sait qu'elle a dit ça. Et je pense que ça change rien. Après, ça change rien, mais elle pense pas ça. Et elle est beaucoup plus ouverte que ça, Louise. Mais. Après, tu vois, je pense qu'elle a le droit de dire ça, en vrai. Tu vois, c'est son problème. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord et que ça vous choque, vous avez le droit de dire que ça vous choque.
Aya Nakamura ou JO ?
Je suis totalement pour. Je suis totalement pour. C'est l'artiste française la plus écoutée à l'étranger.
Même si elle est française que depuis 3 ans.
Alors, je sais pas si elle est française que depuis 3 ans. C'est le cas. Bon. Bah, tant mieux, elle est française à la fois, tu vois. Je le savais pas, tu vois. Mais en l'occurrence, en fait, je peux pas m'empêcher de penser que derrière les commentaires qui sont faits, il y a une récupération, mais d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, tu vois, politique, racisée, qui, voilà. Ce qui serait bien, c'est que oui, si elle chante du, qu'elle donne une belle image de la France, mais je pense qu'elle en est capable. C'est une vraie artiste. Je pense que, tu vois, avec le nombre de personnes que j'ai reçues.
C'est quoi une belle image de la France ? Qu'elle danse pas les jambes écartées.
Non, mais en fait, c'est pas forcément l'image qu'on a donnée à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Je sais pas si t'as suivi, moi j'y étais, oui. Mais.
Avec Dujardin qui a scénarisé tout ça.
Ouais, mais en plus j'adore Dujardin, mais tu vois, on adore Dujardin. Bah, il est blanc, il est bien, il est. Tu vois. Mais en l'occurrence, c'est pas que lui, mais c'était chiant en fait. C'était affreux, honnêtement, c'était pénible. Alors il faisait chaud en plus, mais c'était vraiment pénible. Il y avait pas de. Tu vois, c'était une sorte de.
Pas très créatif.
Ouais. Puis du pain, des bretelles,
des bérets,
enfin, ouais, tu vois, en fait, ça va.
Et donc
ça,
tu crois qu'il va y avoir quoi ?
Écoute, je sais pas ce qu'il y aura dans le détail, je sais qu'ils ont tout fait pour avoir les Daft Punk, ils ont pas réussi, a priori. Et encore, tu dis a priori, s'ils les avaient, je pense qu'ils le diraient pas non plus. Je pense que Thierry Reboul, qui est en charge de l'organisation de la cérémonie d'ouverture, c'est un mec qui est capable de beaucoup de choses, donc ça risque d'être très cool.
Bon, donc Aya Nakamura, super.
Ouais, super.
Rachida Dati dans Planète Rap.
Super.
Super.
Ouais.
Je te tiens, tu me tiens. Tu me tiens, je te la tiens. Oh, yeah. Connais ça?
Non.
Non?
Tu me la tiens, toi
une tapette. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette à Phila Turner, non? Tu l'as pas celle-là?
Non, je vois qu'il y a Phila Turner, ouais, mais.
Bon.
Ouais.
Ok, tant pis. C'est quoi ton. Podcast préféré français, Mathieu Stéphanie, il serait temps de se mouiller et d'arrêter de citer des podcasts américains que personne n'écoute. Et me dis pas Clémentine Gallet.
Non, j'écoute pas Blist. Je vais pas te.
C'est Blist, hein,
non,
pas
j'ai
Blist.
Dit Blist. Non, j'ai fourché. Je sais très bien que c'est Blist. En plus, je sors un épisode avec elle demain. Donc, tu vois. Quel est mon podcast préféré en France, en français? Je vois que tu traficotes des trucs, c'est
vas-y,
pour ça que je suis perturbé.
C'est juste que t'en écoutes pas, c'est pour ça que tu trouves pas.
Non, non, mais en plus, on me l'a aussi reproché, mais j'écoute pas beaucoup de podcasts français, pour deux raisons. C'est que j'écoute beaucoup de podcasts tech avec, tu vois, là, en ce moment, je te parlais du patron de, non, je te parlais d'Elon Musk tout à l'heure, mais ça peut être le patron d'OpenAI, Sam Altman, que j'ai écouté 2-3 fois, là, c'était Yann Lequin, qui est un des patrons de l'IA chez Meta. Des trucs très, très, très geeks.
Donc, t'écoutes pas de podcasts français, classiques, lifestyle, que plein de gens écoutent, des récits, des fictions, des interviews.
Non.
Merci pour un des plus grands podcasteurs en France. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu d'harmonica ? Tu sais jouer ? Est-ce que tu veux que je te joue un petit morceau ?
Tu sais jouer de l'harmonica ?
Wow. Ouais, bien sûr. Attends. Voilà.
Et June.
Voilà. Bravo. J'ai pas ma partition sous les yeux. Bon, Mathieu Stéphanie, je voulais t'offrir un livre. Je me suis dit que ça pouvait te servir.
Trop bien. Créer son podcast pour les nuls. Ah, trop bien. Bravo, Pénélope.
Qui est-ce qui a écrit ce livre ?
Pénélope Boeuf.
Voilà. Superbe. Je t'ai dédicacé parce que je me suis trop dit bien. Qu'il y avait peut-être encore des choses à améliorer sur ton podcast.
T'es pas fait chier sur la dédicace quand
non.
même.
Non, quand même, il y en a une. Mais au moins, il y en a une. On montre pas une dédicace. On montre pas une dédicace.
Je peux la raconter. Il y a un cœur, elle a marqué Pénélope. Putain, super.
Non, pas Pénélope.
Pénouche.
Mathieu Stéphanie, il y a quelque chose qu'il faut que je te dise parce que quand j'ai dit aux gens que je recevais Mathieu Stéphanie, tous m'ont dit quelque chose quand même, donc ça va pas te faire très très plaisir. Et ça m'ennuie de terminer sur cette note.
Merde.
Mais quand même, je me porte en tant que messagère. Pourquoi tu parles autant de toi dans tes interviews, Mathieu Stéphanie ? Sache que tout le monde le trouve, tout le monde le pense. Est-ce que tu parlerais pas un peu moins pour laisser parler l'invité ?
Alors déjà...
Je les emmerde.
Non, j'emmerde personne. Moi, c'est leur avis et je le respecte. D'une part, je parle moins qu'à un moment. D'autre part, c'est un truc qui m'a tracassé pendant longtemps. Et Ça vient exactement de la question d'avant, c'est que j'écoute quasiment que des podcasts américains dans lesquels c'est très incarné. Et en fait, il faut voir que je suis dans une discussion. Tu vois, tout à l'heure, tu m'as parlé d'interview, je t'ai pas répondu, ou j'ai eu du mal à répondre à une interview parce que je me considère pas du tout comme un intervieweur. Moi, je discute avec mes invités. Et en fait, je crois que s'ils se livrent autant par moment chez moi, c'est que je me livre aussi à eux. Et donc, c'est pas une technique, mais c'est quelque chose que j'assume de plus en plus, et que, pareil, mes auditeurs, ceux qui écoutent vraiment, quand j'en parlais beaucoup, j'allais dire m'ont pardonné, mais non, c'est même pas ça, ils m'ont dit, en fait, c'est pour ça qu'on vient. Donc, y a des gens qui aiment pas, il y a la team contre et la team pour.
Donc, il y a des gens qui aiment que tu parles d'un truc à toi quand l'invité parle.
Mais ouais, parce que tu vois, ce que dit tout à l'heure Camille Aumont-Carnel dans le témoignage que t'as proposé, tu vois, elle dit que je me livre, etc. Et ben, je vois très bien les sujets sur lesquels je me livre, en fait. Je vois très bien mes sujets qui sont importants et qui vont aussi fédérer, tu vois. Je vois ce moment où on parle de sexisme, on parle de...
Non, mais parfois, tu parles de trucs à toi qui n'ont rien à voir.
Non, hein. Mais là, je te parle de ma fille à ce moment-là et de ses problématiques et de me dire, attends, qu'est-ce qui se passera qu'est-ce qui se passerait si ma fille me disait « Ah, je me suis tapé un troisième mec cette semaine, machin », alors que mon fils...
Tu parles pas que ta fille et tes familles,
non,
parfois.
Non, mais j'en parle de ça, mais je parle... En fait, j'essaye de... Je vais pas parler de moi gratos, tu vois. Il y a toujours une finalité d'expliquer quelque chose qui va mettre en lumière ou qui va être...
Et quand t'entends plein de gens qui te disent « Mathieu, franchement, on trouve qu'il parle trop de lui et c'est dommage parce que du coup, on n'a plus trop envie d'écouter ses interviews », tu dis quoi ?
Non, mais s'il y en a trop et que c'est un... Mais je te dis, moi, j'ai les deux sons de cloche. Donc après, il y en a qui aiment pas, il y en a qui... Pour l'instant, ça m'empêche pas d'avoir de plus en plus d'écoute. Donc,
je me portais la messagère.
Quelque part, voilà. En tout cas, j'ai arrêté de me faire des nœuds au cerveau à cause de ça. J'ai arrêté de me faire des nœuds au cerveau sur plein de choses, et notamment sur ce point-là, parce qu'il y a un moment, c'était vraiment le truc qui m'empêchait un peu de dormir. Et quand tu vois, bah oui, les gens qui sont pas contents, quelque part, ils disent ça. Et,
ils sont toujours là.
Et, bah, soit ils sont toujours là, soit ils sont ailleurs, et tant mieux pour les autres podcasteurs, tu vois.
T'en donnes un petit peu. Mathieu Stéphanie, dernière question du tu préfères. Tu préfères de la fin? Est-ce que tu préfères que cet épisode qui est assez chouette ne sorte jamais? Jamais? Ou alors que cet épisode qui est assez chouette sorte, mais que personne ne l'écoute?
Option 2. Bien sûr, je veux surtout pas que les choses ne sortent pas. C'est tellement.
Même si personne n'écoute.
Ouais, écoute, tant pis. Ce sera une leçon pour nous. On apprendra, tu vois.
Mais autant se le garder pour nous, non? Tu préfères quand même qu'il sorte?
Bah oui, bien sûr. Si il sort pas, on saura pas. S'il écoute ou pas, là, on saura pourquoi il a pas fonctionné. On se dira, bah tiens, on fera jamais ça. On se reverra plus jamais. On s'invitera plus jamais mutuellement. Quoi.
Adieu, Mathieu.
Adieu. Pénélope Boeuf, j'ai hésité entre Pénouche et Pénélope Boeuf. Adieu, merci, hein. C'était cool. Et puis si vous ne l'avez pas fait, il faut dire une chose importante pour Pénélope. Il faut s'abonner au podcast parce qu'il y a plein de gens qui écoutent des podcasts et qui ne sont pas abonnés. Donc faites-le pour Pénélope parce que ça ne vous a pas coûté grand-chose d'écouter ce podcast.
Merci Mathieu.
À part que je parle beaucoup. Et puis mettre un commentaire sur Apple Podcasts et sur Spotify. Petit commentaire. Bah, ouais, c'est bien aussi d'être un peu sur Apple et partout. Et puis vous abonner à la newsletter de Pénélope, t'en as une ou pas?
Pas du tout.
Bah, voilà, bah, abonnez-vous. Voilà la mienne, alors du coup.
On y revient, hein, la boucle est bouclée. Mathieu Stéphanie is back. Ciao, ciao.
Salut.
It's a wrap.
Merci, Matt.
Merci.
Et nul, cette chaise. Toi aussi, ça fait ça, là?
Je sais pas.
Ah non, moi, je vais vachement loin, t'as vu?
Ouais. Mon échéance ce week-end, je fais le marathon, là.
De
Paris.
Ah, bah voilà, enfin. Merci. Le Michel Drucker du business, là, il nous a répondu à des trucs.
Je préfère acheter des endroits où tu as une meilleure rentabilité et dépenser mon argent dans des endroits où je loue, où je vais au Club Med, en l'occurrence.
Mathieu, putain, tu vas pas par hasard.
Je vais prendre ses capotes.
Oh non, attends, c'est pourquoi pas, c'est un style. Hein.
J'avais déjà le briquet, je l'utilise pas mal. Mais voilà, ouais.
En plus, pluie, donc les 10 premiers mètres, je me ramasse dans la boue.
Non, en plus, j'ai tout nié en boucle.
Ah, je sais, c'est dur. Hein.
Il y avait un virgule connasse, hein, je crois, derrière. Il l'a pas dit, mais je l'ai entendu, moi. Je...
Merci, Matt. Bisous. Et voilà, c'était Mathieu Stéphanie sous un autre jour que ce qu'on a l'habitude d'entendre d'habitude sur Mathieu Stéphanie, par Mathieu Stéphanie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager l'épisode, mais ça, je le dis juste après, donc je ne vais pas me répéter. Mathieu Stéphanie, tu déchires. Merci beaucoup d'être passé dans le podcast de Pénélope, puisque tu m'avais invité dans ton podcast Génération Do It Yourself. Ciao! C'est assez insupportable à entendre, je l'admets, mais c'est trop important pour ne pas le mentionner. Donc si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à On Tisse la Toile sur votre plateforme d'écoute en cliquant sur suivre ou s'abonner en haut à droite. Je crois que c'est à droite. Mettez des étoiles, idéalement 5 évidemment, et mettez un commentaire aussi. Même un pseudo, on s'en fout, c'est juste histoire d'offrir de la visibilité à ce podcast qu'on espère génial et surtout massivement écouté.
Richard, est-ce que tu peux closer le studio s'il te plaît ?
Ok.
Bye, à toutes.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in...
opinions.
We do that in every episode, too.
We're professional, unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.